Itinéraire de femme. Anne André. Une émission proposée par Radio Shalom Bourgogne.
Bonjour chères auditrices et auditeurs de Radio Shalom. Vous êtes dans l'émission Itinéraire de femme, consacrée à la présentation du parcours singulier de certaines d'entre elles. Notre émission d'aujourd'hui est consacrée à Donna Gracia Nassi, celle qui fut appelée la nouvelle Esther de la Renaissance. Pour illustrer le parcours de cette grande dame, nous nous référerons à l'interview de l'écrivain Joël Gedge, accordée à Rachel Samoul en 2015, dans l'émission Billets de mon invité, issue du blog Kev Israël. Comment celle qui s'est appelée tour à tour Béatrice de Luna, Donna Mendes, Anna Gracia Nassi et tout simplement la Signora a-t-elle impressionné et influencé la communauté juive, l'empereur Charles Quint, les papes de l'époque? Pour retracer le parcours exceptionnel de cette femme, nous allons le décliner en plusieurs étapes. Tout d'abord, la première étape, le Portugal. Née au Portugal en 1510 dans une famille de conversos qui a fui l'Espagne au début de l'Inquisition, elle porte le nom de Béatrice de Luna Miguez, la famille Nassi ayant dû changer de nom. C'est une fille jolie, intelligente, attachée au judaïsme qu'elle pratique en cachette. Son frère est médecin du roi. À 18 ans, elle épouse Francisco Mendez, dont la famille a joué un grand rôle auprès des rois d'Aragon et de Castille. Francisco Mendez, de son vrai nom Sema Benveniste, est un grand homme d'affaires spécialisé dans le commerce des épices et des pierres précieuses. Bientôt, la maison Mendez devient la première maison commerciale d'Anvers et d'Europe, créant des succursales où ils installent des parents et des amis, tous conversos. Francisco Mendez prête de l'argent au roi du Portugal, travaille avec les banques d'Allemagne. En 1536, à la mort de son mari, Donna Gracia décide de quitter le Portugal, devenu aussi inhospitalier que l'Espagne. Elle emmène Reina, son unique enfant, ses deux neveux Joseph et Samuel, et quelques membres de sa famille. La deuxième étape du parcours de notre Signora nous amène à Anvers. À cette époque, Anvers, le plus grand port du nord de l'Europe, attire les conversos de la péninsule ibérique. Gracia va à Anvers où se trouve son beau-frère Diego, qui dirige une branche de la banque des Mendes d'Assi. Elle va entretenir des relations suivies avec la plupart des cours d'Europe, celle de Charles Quint et celle de la régente des Pays-Bas. Rois et princes empruntent à cette banquière et utilisent sans scrupule le chantage de l'Inquisition. La famille Mendes est connue pour sa générosité, son sens de l'entraide. Diego est en butte à la jalousie et l'hostilité des non-juifs. On le soupçonne d'être converso, il est inculpé, mis en prison, relâché après que Gracia ait versé de fortes sommes. Diego meurt en 1542 et Gracia se retrouve à la tête d'une des plus grandes fortunes d'Europe. Sa fille est convoitée par toutes les têtes couronnées d'Europe. Mais Gracia refuse toutes les offres. Elle ne veut pas de mariage mixte. Mais même là, l'Inquisition ne tarde pas à les rejoindre. Si bien que eux qui ont fui leur pays pour recouvrer leur liberté perdue se voient contraints de redoubler de précautions afin de paraître encore plus chrétiens qu'en Espagne et au Portugal. L'empereur Charles V, soupçonnant que quelque chose se trame, décide de saisir la fortune de la noble dame. Mais celle-ci, le gagnant de vitesse, réussit à quitter Anvers en 1549 avec sa fille, sa sœur devenue veuve et sa nièce. Elle emporte avec elle le plus clair de ses biens. La troisième étape du parcours de Gracia nous amène à Venise. Après un périple en Allemagne, un bref passage à Lyon, elle s'installe à Venise en dehors du ghetto puisqu'elle n'est pas juive officiellement, dans un hôtel particulier qui devient rapidement un centre d'accueil pour les réfugiés conversos. Pour des raisons sordides, sa sœur la dénonce comme judaïsante. Elle est arrêtée, ses biens mis sous tutelle. Grâce à l'intervention de Moïse Hamon, médecin du sultan et ami de la famille, le sultan la fait libérer en 1549 et l'invite à s'installer dans l'Empire ottoman. C'est alors que son neveu, Don Joseph Nassi, qui ayant trouvé refuge en Turquie, était devenu ministre de Soliman le Magnifique, et donc l'un des hommes les plus influents d'Europe, intervient, usant de sa grande influence auprès du sultan. Ce fut chose facile. Ce dernier n'attendait qu'un prétexte, la concurrence des marchands de Venise gênant sa politique. Un émissaire spécial partit pour la République des Doges, avec pour mission de présenter une requête pour la libération de la dame et la restitution de sa fortune. Négociations et menaces de guerre alternent. Il faut 2 ans avant que le sultan n'obtienne satisfaction. Donna Gracia est enfin relâchée. Béatrice réussit à s'échapper vers Ferrare, à l'ouest de Venise, où elle abandonne complètement son déguisement de converti et embrasse ouvertement le judaïsme sous le nom juif de Donia Gracia Nassi. Elle soutient financièrement la traduction en latino de la Bible de Ferrare et elle continue à aider les juifs et les convertis. À la suite d'une épidémie de peste en 1551, on assiste à une vague d'antisémitisme telle que le duc de Ferrare décide d'expulser les juifs de son territoire. La 4e étape du parcours de Donna Gracia nous amène à Constantinople. Elle y arrive en 1553 et elle est reçue comme un chef d'État. Elle organise le blocus de la ville d'Ancône, placée sous l'autorité du pape. En 1555, le pape fait condamner à mort les conversos revenus au judaïsme. Leurs biens sont confisqués, beaucoup parmi eux sont mis en prison et torturés. 26 meurent sur le bûcher. Gracia demande au consul turc d'intervenir. Ce dernier obtempère et envoie un messager au pape pour lui demander de libérer les prisonniers et de les dédommager des biens confisqués. Le pape refuse. Poussé par Gracia, le sultan décide de boycotter le port d'Ancône pendant une durée de 8 mois. Depuis que les Juifs vivent en diaspora, c'est la première fois qu'ils ont accompli un acte politique pour se défendre. Sur le plan personnel, Gracia accomplit le vœu de son mari. Avec beaucoup de difficultés, elle fait transférer le corps de Francisco de Lisbonne à Jérusalem, où il est inhumé dans la vallée de Josaphat. Sa fille épouse son propre cousin, Don Joseph Nassi, ce qui de surcroît évite la dispersion de la fortune familiale. Soliman le Magnifique lui donne le protectorat de Tibériade qui pourra servir de refuge aux Juifs fuyant l'Inquisition. Elle finance la reconstruction de la ville ainsi que celle de Safed. Elle importe des milliers de moutons et d'arbres fruitiers afin de développer la région. L'entreprise connaît un succès mitigé, les Juifs ottomans préférant rester dans les centres urbains plus développés de l'Empire, tels Constantinople, Izmir, Salonique ou Alep. Pendant les 12 années où elle s'occupe de la communauté juive de l'Empire ottoman, elle participe au sauvetage des Juifs d'Espagne et du Portugal, au rachat de Juifs captifs, à la charité envers les démunis. Son argent ne sert pas seulement aux affaires, mais aussi à payer les faveurs des princes et à faire ouvrir le plus possible de portes aux persécutés. Elle aide des centaines de conversos à s'établir dans leur pays d'adoption et fait tout ce qu'elle peut afin de les mettre en mesure de revenir à la pratique ouverte de leur foi. Donna Gracia fait édifier des synagogues, fond une yeshiva et des bibliothèques, et soutient par tous les moyens érudits et étudiants de la Torah. Elle fonde à Salonique un Beth Midrash, une institution de formation continue pour les rabbins. Elle meurt en Palestine, certainement dans la région de Safed, vers 1569. Aujourd'hui encore, pour les Juifs de Turquie, la Seniora reste vénérée et de nombreuses œuvres lui sont dédiées. Des tableaux, des médailles et par-dessus tout, des communautés entières préservent le souvenir de cette bienfaitrice de génie. Quiconque entreprend de raconter les nobles actions et les rares vertus de Donna Gracia, écrivait un érudit contemporain, Rabbi Isaac Aboab, devra écrire des volumes s'il veut lui rendre justice.
Itinéraire de femme. Anne André. Une émission proposée par Radio Shalom Bourgogne.